France Info.
Nous allons rester dans le froid, surtout au nord-est. 4 degrés simplement cet après-midi à Nancy et à Dijon, 5 à Strasbourg. Il fera un peu meilleur peut-être à Lille, 7 degrés, 8 à Paris. À Rennes, 14 degrés. Et le plus doux, ça sera encore en Méditerranée, du côté de Toulon, avec 16 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Christine, merci d'écouter France Info. Très bon début de journée, il est 9h. Et c'est le journal de William Gacosta. Bonjour William.
Bonjour. À la une de ce 27 novembre, Emmanuel Macron qui s'apprête à donner les contours du nouveau service militaire pour les jeunes volontaires. Dans l'actualité également, 2 soldats blessés en plein cœur de Washington aux États-Unis. Et puis, il y a un risque d'étouffement progressif du pays, alerte du gouverneur de la Banque de France sur France Info en plein examen du budget. En 1997, Jacques Chirac l'a aboli. En 2025, Emmanuel Macron compte le rétablir. Le service militaire, cette fois, nous le disions, ça ne sera que pour des volontaires. Le président de la République travaille sur le dossier depuis janvier. Il dévoilera les contours à la mi-journée à la base militaire de Vars en Isère. Paul Barcelone, le chef de l'État qui veut s'adresser à la jeunesse.
Sans parler d'échec, Emmanuel Macron reconnaît que le SNU, le service national universel, n'est plus à la mode. Quand il a été créé, il n'y avait pas la guerre en Europe, pas la crainte de voir les États-Unis se désengager, admet un conseiller. Sans réhabiliter le service militaire obligatoire supprimé par Jacques Chirac, le président imagine un dispositif ouvert aux volontaires, orienté sur la découverte des activités militaires et la formation à des métiers au sein des armées. Objectif 100 000 réservistes d'ici à 2030, qu'il ne s'agira pas d'envoyer au front en Ukraine. Malgré les propos polémiques du chef d'état-major des armées qui estime que la France doit se préparer à perdre ses enfants. Alors que le budget est enlisé au Parlement, l'Élysée promet un projet réaliste avec sa casquette de chef des armées, fidèle selon son entourage à sa promesse d'émancipation. Emmanuel Macron reste donc en quête d'un héritage pour donner à la jeunesse, je le cite, le choix de servir.
On suivra la prise de parole du chef de l'État sur France Info à la mi-journée. C'est l'information de la nuit. 6 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain à Tahiti. Au total, selon les autorités locales, 8 personnes ont été prises au piège dans les maisons emportées. 2 sont donc toujours portées disparues. Les fortes pluies des derniers jours sont en cause. À Hong Kong, 55 morts. C'est le nouveau bilan de l'incendie monstre qui dévore plusieurs gratte-ciels. Près de 300 personnes cette fois sont portées disparues. Les flammes se sont propagées par des échafaudages en bambou traditionnels dans la ville chinoise. 2 gardes nationaux américains sont dans un état critique. Ils ont été visés par des tirs en plein cœur de Washington. À quelques encablures de la Maison Blanche, Agathe Mahué, un suspect a été arrêté. Il s'agit d'un ressortissant afghan.
Les tirs ont eu lieu à 400 mètres de la Maison Blanche, en plein après-midi, ciblant 2 militaires en patrouille qui sont toujours à l'heure actuelle dans un état grave. Le suspect, lui, a été immédiatement arrêté, identifié comme un ressortissant afghan de 29 ans. C'est un acte de terreur, dénonce Donald Trump dans une allocution solennelle depuis la Floride, le président qui promet de renforcer sa politique anti-immigration.
Cet homme a été amené ici par l'administration Biden en septembre 2021. Ils ont fait entrer 20 millions d'étrangers, des inconnus venant du monde entier depuis des pays dont vous n'avez même pas envie d'entendre parler. Nous allons maintenant réexaminer la situation de chaque étranger venu d'Afghanistan à l'époque de Biden. Et nous allons prendre toutes les mesures pour expulser tout étranger de n'importe quel pays qui n'aurait pas sa place ici ou qui n'apporte rien à notre pays.
Donald Trump annonce par ailleurs que 500 soldats supplémentaires vont être mobilisés pour aider, dit-il, à sécuriser la capitale. Il avait déjà cet été décidé de déployer la garde nationale à Washington contre l'avis de la municipalité démocrate. 2000 hommes déjà présents dans les rues de la capitale fédérale. C'est l'une de ces patrouilles qui a été ciblée par ces tirs.
Agathe Mahué, en France, les sénateurs et les députés de la commission mixte paritaire n'ont pas réussi à trouver de compromis sur le projet de budget de la Sécu de l'an prochain, notamment sur la suspension de la réforme des retraites validée par les députés mais retoquée par le Sénat. Le projet repart donc à l'Assemblée pour une deuxième lecture. Cette incertitude budgétaire, elle est dangereuse pour notre économie, répète sur France Info ce matin le gouverneur de la Banque de France.
J'ai toujours dit que la France ne risquait pas la faillite. Par contre, la France risque l'étouffement progressif. C'est pour ça que nous devons réduire les déficits et que nous pouvons les réduire. Pourquoi ? Parce que cette dette qui augmente nous coûte en charge d'intérêt des dizaines de milliards de plus au cours de la décennie. Pour redire les chiffres, c'était 30 milliards de charges d'intérêt en 2020. Et ce sera plus de 100 milliards à la fin de la décennie. Donc vous voyez, ces 70 milliards supplémentaires, c'est autant que nous ne pouvons pas consacrer à l'éducation, à la lutte contre le changement climatique ou à la défense.
François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, au micro de Jérôme Chapuis. La nationalisation ne règle en rien le problème, selon le PDG d'ArcelorMittal. Alors qu'un texte porté par les Insoumis est débattu aujourd'hui à l'Assemblée, il prévoit de nationaliser les activités françaises du géant de l'acier. Le texte est soutenu par une partie des salariés et des syndicats qui vont manifester devant le Palais Bourbon. Le PSG s'impose au Parc des Princes face à Tottenham en Ligue des Champions. Score final hier soir 5-3, grâce notamment à un triplé de Vitinha, autre club de Ligue 1 qui jouait hier soir en Ligue des Champions. Monaco, match nul pour le club du Rocher qui se déplaçait à Chypre pour affronter Paphos. Et puis c'est un bruit que l'on n'avait jamais entendu. Attention, il faut tendre l'oreille. Ce crépitement, c'est le bruit de la foudre sur Mars, ou plutôt d'une décharge électrique dans des tourbillons de poussière. On doit cette découverte à des scientifiques français grâce à un micro embarqué sur le rover Perseverance qui parcourt la planète rouge depuis 4 ans. Il est 9h06 sur France Info. Restez avec nous dans un instant, les informés avec Renaud Dely et Agathe Lambray.
Bienvenue dans Les Informés, vous nous écoutez sur France Info Radio, vous nous regardez sur France Info TV, canal 16. Bonjour Renaud Dely.
Bonjour Agathe.
On parle de deux sujets aujourd'hui, pourquoi rétablir le service militaire et puis nationaliser ArcelorMittal, de quoi sauver l'acierie ou un gouffre financier qui ne réglera rien, comme le dit Bercy. Ce matin, pour nous éclairer, nos informés, Myriam Ankawa, présentatrice de l'émission Tout est politique, 18h-20h, vendredi, samedi, dimanche sur France Info TV. Bonjour Myriam.
Bonjour Agathe.
Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Bonjour Louis.
Bonjour.
Et Fanny Guinochet, notre éditorialiste économie à France Info. On commence donc, Renaud, avec notre premier sujet, vers le retour d'un service national volontaire. Pourquoi faire ?
Près de 30 ans après la suppression du service national obligatoire par Jacques Chirac, Emmanuel Macron devrait donc annoncer à l'occasion d'un déplacement dans les Alpes, devant la 27e brigade d'infanterie de montagne, le retour donc d'un service militaire basé sur le volontariat. Il l'avait d'ailleurs déjà esquissé lors de son discours aux armées le 13 juillet dernier. Ce service volontaire pourrait être d'une durée de 10 mois. Il serait rémunéré de plusieurs centaines d'euros. Et puis, attention, il ne s'agit pas, et ça le chef de l'État l'a répété avant-hier encore, d'envoyer ses futurs réservistes sur le front en Ukraine. Alors, à quoi va servir ce service volontaire ? Et puis, en quoi est-il vraiment utile aujourd'hui au format de nos armées, notamment dans le contexte géopolitique incertain ? Voici ce qu'on disait ce matin sur l'antenne de France Info, Jean-Marie Bockel, qui fut secrétaire d'État à la Défense.
Aujourd'hui, on sait que sur les prochaines années, l'engagement, le volontariat, la réserve militaire, qui est déjà très importante, n'y suffiront pas. Donc le service volontaire, on verra ce qui sera précisément annoncé, mais devra y contribuer et devra permettre également d'être une sorte de vivier de ceux qui auront fait ces peut-être 10 mois pour ensuite devenir réserviste, voire prendre un engagement plus long.
Donc un nouveau dispositif qui entre évidemment dans le contexte géopolitique actuel, quelques jours aussi après les propos tenus par le chef d'état-major des armées Fabien Mandon, qui expliquait que face à la menace russe et à l'hypothèse d'une attaque russe contre un pays de l'OTAN à l'horizon de 4 ou 5 ans, le pays, je le cite, devait accepter de perdre ses enfants, même si dans le cas précis, je le répète, Emmanuel Macron a dit qu'il ne s'agissait pas d'envoyer ses futurs réservistes au front en Ukraine. Et puis rappelons aussi que Jean-Marie Bockel, qu'on vient d'entendre, ancien secrétaire d'État à la Défense, a été lui-même frappé par un tel drame puisqu'il a perdu son fils dans l'opération Barkhane au Mali, c'était en 2019.
Pourquoi rétablir le service militaire aujourd'hui, Louis Osalter ?
Alors déjà, il faut revenir au cheminement d'Emmanuel Macron autour de cette idée, parce qu'il y a eu quand même quelques zigzags. Sa grande idée avant, c'était un service national universel qui, en fait, n'avait pas une vocation uniquement militaire. C'était des séjours de cohésion entre jeunes, en quelque sorte, qui ont ni le succès espéré, qui n'ont jamais trouvé de sens, de place, par manque d'encadrement, par manque de clarification sur ce à quoi servait vraiment ce SNU. Donc là, il y a un recentrage évident sur les questions militaires pour deux raisons. D'abord, il y a le contexte géopolitique qu'évoquait Renaud avec les menaces extérieures, à commencer par celle de la Russie. Il y a aussi sans doute cette nécessité de retisser tisser un lien entre l'armée et le pays, parce que depuis que Jacques Chirac a suspendu, hein, c'était le terme à l'époque, le service militaire, dont la conscription obligatoire pour tous les jeunes hommes dans les années 90, ça coïncidait avec l'effacement évidemment de la menace à l'est, là, peu après l'effondrement de l'Union soviétique. Le monde entrait dans une sorte de paix. En tout cas, on n'a pas eu de conflit de haute intensité et particulièrement pendant ces années-là. Et sans doute que ça a pas coupé, mais ça amoindrit la connaissance, la familiarité des Français, et notamment de la jeunesse avec l'armée. Alors même qu'il y a un bon a priori de la jeunesse sur l'armée, puisque dans les sondages sur les institutions à lesquelles les Français ont le plus confiance, on voit que l'armée arrive dans les premières positions, et notamment dans la jeunesse. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce sont des jeunes qui ont une plus grande défiance à l'égard de l'armée, c'est presque le contraire. Il y a un bon a priori de confiance de la jeunesse à l'égard de l'armée française. Mais il y a un manque de connaissance, et c'est vrai que pour plusieurs générations maintenant, eh bien, on ne sait pas ce qu'est être militaire, on ne sait pas comment ça marche exactement, on ne sait pas comment ça fonctionne, et on n'est pas forcément familier des enjeux géostratégiques, des enjeux de défense, dans un contexte où ils prennent de plus en plus d'acuité, évidemment, avec les menaces. Donc, sans doute qu'il y a cette idée, au-delà, évidemment, du symbole, hein, de voir des jeunes qui vont sans doute aller faire ce service-là, dans lequel on va voir un tout petit rétablissement d'un service, même si, évidemment, ça n'aura rien d'obligatoire. Il y a sans doute ce lien-là qui a recréé dans les temps qui courent.
Et il y a aussi un responsable politique de gauche qui me disait il y a quelques jours en off, hein, pas devant la caméra, que dans cette période aussi troublée avec une société de plus en plus violente, c'était aussi nécessaire d'avoir des personnes qui sont capables de se défendre. Est-ce qu'il y a cette idée aussi, Myriam Ankawa, que la sécurité doit être l'affaire de tous et qu'il faut élargir le plus possible le nombre de personnes qui seraient capables de défendre dans des situations difficiles.
Il y a deux idées. Il y a l'idée qu'effectivement, on a 200 000 militaires d'actifs aujourd'hui et que très clairement, la masse nécessaire n'est pas complètement atteinte, non pas pour aller sur le terrain dans une situation de confrontation armée, mais pour avoir à l'arrière suffisamment de réservistes. Il y a quand même cette idée, Jean-Marie Bockel le disait, de passerelle entre ce SNV, ce service national volontaire, et la réserve. Parce que tous ceux qui seraient amenés à vouloir continuer pourraient intégrer cette réserve qui aurait des missions arrière en cas de conflit ou en cas de menace terroriste ou armée ou de guerre. Je trouve que l'expression du président, ce fameux pacte nation armée, est intéressante. Qu'est-ce que c'est un pacte ? C'est un contrat. C'est un contrat pas comme les autres. Le pays délègue, donne un mandat à son armée et lui donne le droit de tuer pour se protéger. Donc c'est pas rien quand même. Et on a un peu oublié ce pacte. Et tous les militaires vous disent aujourd'hui, face à la menace, on ne gagne pas une guerre qu'avec son armée, on gagne une guerre avec sa nation. Et donc, cette question du lien, ça peut paraître abstrait, mais aujourd'hui, il me semble que c'est pas complètement idiot de raffermir, là je parle vraiment comme Emmanuel Macron, mais c'est un terme. Ils sont forts ces mots, raffermir ce lien. Donc il y aura peut-être des besoins très concrets derrière, encore faut-il le financer, Fanny Guinochet nous dira si c'est possible ou pas, mais dans ces temps où parfois il y a une apathie générale face à la menace, voire une certaine forme de déni, ou de même de lâcheté, il me semble que c'est bienvenu.
Renaud Dény.
Pour répondre à la question que vous ne m'avez pas posée, Agathe, mais sur ce responsable de gauche dont j'ignore l'identité, qui vous a dit, mais vous avez eu raison, qui vous disait donc ce que vous disiez, que la restauration de ce type de service militaire, ça pouvait aussi servir à se défendre dans ce contexte
même
de troubles, y compris intérieur dans le quotidien. J'espère bien qu'il n'y a pas cette attention, bien sûr. J'espère bien qu'il n'y a pas ce but-là. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont chargés de faire respecter l'ordre dans le pays, bien, il y a des institutions pour ça, à commencer évidemment par la police, et c'est pas le fait de faire un service militaire volontaire, donc de 10 mois, qui doit ensuite autoriser chacun à lui-même justement faire régner l'ordre en quelque sorte. S'il s'agit de je caricature un petit peu le propos de cet élu, mais qu'il y ait une forme d'esprit de milicien en chacun d'entre nous, je vais vous faire un aveu.
Comme dit Emmanuel Macron, ils ne seront pas non plus envoyés en Ukraine.
Oui, bien sûr.
Et ce ne seront des militaires
là,
professionnels.
Je rejoins ce que disait Myriam Ankawa sur la nécessité d'un lien armée-nation par rapport à des menaces extérieures et puis par rapport même à un certain sentiment national et patriotique, éminemment républicain. Mais je vais vous faire un aveu. Moi qui suis très vieux, j'ai fait mon service militaire il y a donc très longtemps, je suis évidemment pas en charge de faire respecter l'ordre dans les transports publics ou autres aujourd'hui. J'interviendrai peut-être comme n'importe quel citoyen, et encore, si j'en ai le courage, je n'en sais rien. Mais si, mais ça n'est pas, c'est la formation que j'ai requise à l'époque qui faisait de moi potentiellement quelqu'un qui pouvait intervenir à la place de quelqu'un qui est chargé de faire respecter l'ordre dans le pays, un policier ou autre. Il y a un problème évidemment dans la restauration de ce service militaire obligatoire dont il faut parler, c'est quand même la question des gros sous. Voilà, c'est combien ça coûte. C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le service national obligatoire avait été suspendu, comme l'a rappelé Louis Sater, c'est que ça coûtait extrêmement cher. La France n'a pas du tout les moyens d'en rétablir un obligatoire. Quel va être le coût de ce dispositif volontaire partiel qui va lentement monter en charge? Et il faut rappeler que c'est aussi une des raisons, hein, le manque d'argent, du naufrage qui a été celui du SNU, le Service National Universel.
Manque d'investissement parce que manque de moyens. Fanny Guinochet, aujourd'hui, les caisses sont vides. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un service national volontaire qui a un peu de consistance avec les moyens que l'on a?
Déjà, on va voir s'il y a un budget, parce que je rappelle que un des enjeux de ce budget, du vote du budget, c'est de permettre aux armées d'avoir une augmentation de leur enveloppe. Et ce n'est pas une petite augmentation, c'est une augmentation de quasiment 7 milliards d'euros, 6,7. C'est ce qui est prévu. S'il n'y a pas de budget, c'est une loi spéciale. Et donc, les 6 milliards en plus que l'armée attend, ils passeront à l'as, pour être très clair, déjà. Ensuite, c'est vrai que cette formule d'un service volontaire, c'est une façon de faire naître un esprit de défense parmi les jeunes. Et c'est nettement moins coûteux qu'un service obligatoire, comme l'ont fait certains pays. Il y a une dizaine de pays européens.
Un service obligatoire.
Un service obligatoire. Il y a eu des estimations faites par le Haut Commissariat au Plan et France Stratégie. On n'est pas loin de 15 milliards d'euros par an. On n'en a absolument pas les moyens.
Vous voyez.
Alors que si on fait, alors il faut voir les évaluations, mais un service volontaire, c'est autour de 2 milliards d'euros par an. Ça dépend.
Pour 50 000 jeunes, je crois. 2 milliards.
Voilà.
Pour 50 000
ça dépend le nombre de jeunes que l'on inscrit dedans.
Mais vous voyez, déjà, ça, c'est beaucoup.
Le ratio a rien à voir. C'est vraiment... Après, la question de ce service, la question que se posent les armées aujourd'hui, qui sont effectivement... Alors peut-être que le général Mandon l'a dit de façon maladroite et un peu forte, face à un risque de menace, non pas sur notre sol, mais si on était exposé à une menace russe, notamment, c'est d'essayer de faire en sorte que l'armée ne soit pas complètement déconnectée de la population. Et pour cela, qu'il y ait un certain nombre de réservistes. Alors, les réservistes, ça peut aussi être des citoyens lambda. Hein. La plupart des réservistes, ils ont une vie, ils sont cadres dans des entreprises, ils sont employés, ils sont salariés. Et c'est une mise à disposition, à un moment de leurs compétences. Et c'est là-dessus que travaille beaucoup l'armée, en disant, si demain, il y avait un conflit, ou si on rentrait dans un niveau de menace supérieure, comment la nation derrière l'armée ferait front? Et c'est très important parce que quand vous regardez, alors on a beaucoup focalisé sur le discours du général Mandon, mais avant lui, le général Burka a dit au mois de juillet l'état de la menace un peu dans les mêmes termes. Et il a dit cette phrase que peu ont relevé. Un des enjeux principaux, ce sera qu'il y ait une cohésion nationale. L'inquiétude du gouvernement aujourd'hui, c'est que demain, si on entrait parce que un pays de l'OTAN
serait attaqué, se divise.
Que le pays se divise.
Parce que Louis, vous parliez du lien entre les citoyens et l'armée. Il y a aussi derrière le service militaire ce mythe un peu, vous allez nous dire si c'est un mythe, d'un brassage social et culturel qu'Emmanuel Macron avait essayé de retrouver avec le SNU, le Service National Universel. On a vu que ça n'a pas fonctionné. C'est vrai ça ou pas? Ou finalement, ça n'a jamais servi vraiment à brasser les différents milieux?
Il faut le relativiser. Bah, Renaud nous le dira, nous racontera son service militaire après ou pendant l'émission. Après, il faut le relativiser. Il est vrai que ça permettait de mettre dans des chambrées similaires des jeunes d'origine, de classes sociales différentes. Sous certaines réserves, parce que on voit que les missions, au fil de leur attribution, n'étaient pas forcément les mêmes pour tous. Surtout, il ne faut pas demander à l'armée ce que l'armée ne sait pas ou plus faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de demande de l'armée pour un rétablissement du service obligatoire pour tout le monde. Au contraire, c'est extrêmement lourd à gérer. Au moment où le SNU a été mis en place, d'ailleurs, les militaires étaient très méfiants, et c'est pas eux véritablement qui encadraient. Ils faisaient certaines missions sur la sensibilisation à la défense, mais ils ne sont pas demandeurs de ça, parce que l'armée française, et notamment depuis la suspension du service national obligatoire, du service militaire, est allée définitivement vers l'armée de métier, comme l'écrivait le général de Gaulle quand il n'était pas encore général. Alors effectivement, il y a la réserve aussi qui s'est ajoutée à cela et qui permet de cultiver dans des franges de la population qui ne sont pas des professionnels de l'armée, et ben cet esprit de défense et cette capacité à donner quelques jours, quelques semaines de son temps chaque année à l'armée. Et en ajoutant donc cette brique du service national que va annoncer Emmanuel Macron, et bien ça permet d'aller chercher dans la jeunesse, et bien d'aller sensibiliser la jeunesse à cet esprit de défense. Mais ce dont a besoin l'armée en ce moment, et ça tous les généraux vous le diront, c'est de masse. Ça, c'est le terme technique pour dire l'armée a besoin de masse. Ça signifie les ressources humaines et matérielles dont l'armée a besoin pour correspondre à la menace, aux menaces au pluriel que nous connaissons actuellement, et d'avoir un potentiel de mobilisation qui puisse rapidement répondre à ces menaces-là. Et donc l'augmentation des crédits militaires qui permet d'avoir plus d'effectifs professionnels, l'augmentation de la réserve avec des objectifs à la hausse qui ont été fixés ces dernières années, et maintenant ce service national permettent en tout cas d'aller vers cette augmentation de la masse dont ont besoin les états-majors, en plus évidemment des crédits qui vont avec, pour répondre aux menaces qu'ils nous signalent semaine après semaine.
Dans un instant, faut-il nationaliser ArcelorMittal ? C'est ce que propose la France Insoumise à l'Assemblée aujourd'hui. Mais tout de suite, il est 9h20 et c'est l'info en une minute avec Maureen Sugnard.
Le bilan s'alourdit en Polynésie française. 6 corps ont été retrouvés à Tahiti après un glissement de terrain. 2 maisons ont été ensevelies et 2 personnes sont toujours recherchées par les secours. Il s'agit du pire incendie depuis des décennies. Au moins 55 morts à Hong Kong. Un vaste incendie a dévoré 8 gratte-ciels d'habitations ces dernières heures. Il y a encore des centaines de disparus. Un chantier de rénovation était en cours. Les autorités annoncent à l'instant l'ouverture d'une enquête anticorruption. Le collectif La Voix est libre, principal opposant à la 69, va saisir le ministère de la Transition écologique pour demander une suspension du chantier. Plusieurs sites du chantier de l'autoroute qui doit relier Castres à Toulouse débordent du tracé validé par l'État. 40 hectares sont concernés selon l'agence de vérification de Radio France. Et puis de la neige en abondance en Isère, plusieurs dizaines de centimètres alors que la saison n'a pas encore commencé. Plusieurs domaines de ski alpin ont donc décidé d'avancer leur ouverture. C'est le cas notamment pour la station de Champs-Rousse dès ce week-end.
France Info.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Les informés avec Myriam Ankawa de France Info TV, Louis Alter du Figaro et Fanny Guinochet, notre éditorialiste maison. On passe à notre deuxième débat, Renaud. Nationaliser ArcelorMittal, gouffre financier ou la solution magique pour sauver la
Alors que ce groupe chirurgique a annoncé il y a déjà plusieurs mois un plan social avec plusieurs centaines de postes qui sont menacés de suppression, le groupe LFI, la France Insoumise, dans le cadre de ce qu'on appelle sa niche parlementaire à l'Assemblée nationale, va aujourd'hui défendre donc une proposition de loi visant à nationaliser ArcelorMittal. Et celle qui porte cette proposition de loi, en tout cas plutôt celle qui préside ce groupe qui sera présenté par une députée insoumise aurait dû trouver, mais celle qui préside le groupe, Mathilde Panot, était votre invitée il y a quelques minutes. Pourquoi les insoumis veulent-ils nationaliser ArcelorMittal ?
Tous les gens, notamment le ministre de l'économie dont vous parliez tout à l'heure, qui nous explique qu'il n'y a pas d'autre solution que la nationalisation, ne propose absolument rien. Donc, puisque Mittal refuse de faire les investissements nécessaires, l'État le fera et nous protégerons ainsi un secteur qui est essentiel, encore une fois, à la souveraineté de notre pays.
Alors, est-ce que c'est une bonne idée de nationaliser ArcelorMittal ? C'est pas du tout l'avis du président d'ArcelorMittal France, Alain Legris de la Salle, qui était l'invité de France Info ce matin.
Nos sites sont exposés aujourd'hui aux surcapacités mondiales et aux importations destructrices des marchés européens. Donc, nous sommes face à une concurrence déloyale et la nationalisation ne règle en rien ce problème.
Combien ça coûterait de nationaliser ArcelorMittal ? Les insoumis chiffrent, estiment à 3 milliards d'euros a priori le coût de cette nationalisation. Est-ce que l'État déjà en a les moyens ? Et est-ce que ça résoudrait notamment les problèmes de compétitivité auxquels se heurte l'entreprise ?
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'insoumise Mathilde Panot, Fanny Guinochet ? Il faut nationaliser parce que ArcelorMittal ne fait pas les investissements nécessaires.
Alors ArcelorMittal a fait des investissements. Après, le groupe est soumis à un acier chinois qui arrive en surabondance en Europe, donc c'est ArcelorMittal France, mais aussi d'autres groupes, et on voit qu'ils n'ont pas, ils n'arrivent pas à faire face, parce que tout simplement, c'est de la concurrence déloyale. Hein. Les Chinois, ils déversent leur acier qui est produit à très bas prix parce que le gouvernement chinois derrière le subventionne massivement.
Donc, et l'Union européenne a augmenté d'ailleurs les droits.
Voilà, alors c'est très difficile de faire face. Et il ne me semble pas que la solution soit uniquement franco-française, parce que déjà la demande en Europe d'acier baisse, et les mesures doivent être prises au niveau européen pour freiner un peu. Et puis dernier point, essentiel, 3 milliards d'euros, on les trouve où les 3 milliards d'euros? Je veux dire, on vient de
c'est
parler
le prix
du
de
budget.
La nationalisation.
C'est le prix de la nationalisation, parce que très concrètement, ça veut dire que l'État rachèterait toutes les parts d'ArcelorMittal France, donc il rachète du capital. On vient de parler du budget des armées, on n'a même pas d'argent pour payer nos munitions l'année prochaine. 3 milliards d'euros, il faut les trouver.
Mais il y a aussi des emplois à la clé, Myriam Mankawa. Oui. Donc cette proposition, elle a l'air alléchante sur le papier.
Oui, il y a des emplois à la clé. Puis quel symbole, ArcelorMittal, hein, ça fait quand même 20 ans qu'on suit le feuilleton, on se souvient de Florange, Léo Fourneau, François Hollande, qui était monté sur l'échafaudage en disant « Moi, maintenant président, jamais on fermera ce fourneau. » Il y a même une loi Montebourg pour qu'il y ait des repreneurs. En fait, c'est assez tragique. On vient de parler de la défense et là, on se prend en pleine face la désindustrialisation. Industrialisation, qui est la suite d'un long processus. Il y a quelque chose presque d'insupportable, pas seulement pour la gauche, pour l'ensemble des Français, de se dire qu'on n'a pas les moyens de garder en France une industrie qui peut servir à la défense, mais pas seulement à l'automobile. Et ce sont deux secteurs qui ont besoin d'investissement. Donc il y a quelque chose d'une forme d'impuissance politique qui est insupportable et qui va nourrir la campagne présidentielle. Je signale au passage, et c'est l'opinion qui le raconte bien ce matin, que le Rassemblement national, aux surprises, a décidé de s'abstenir sur une nationalisation. C'est quand même fer de lance du protectionnisme.
Il s'est abstenu en commission déjà. Si
voilà, avec une série d'amendements pour faire obstruction. Donc je renvoie nos auditeurs à la cohérence de ce parti, lui qui veut défendre des emplois français. Il me semble qu'effectivement, la bonne réponse, elle est européenne. Au niveau européen, avec des droits de douane solides et une vraie guerre commerciale, on pourra éviter que l'acier chinois nous arrive dessus, si vous me permettez l'expression, mais pas au niveau national,
au niveau français.
Parce que cette concurrence, même nationalisée, elle restera.
Louis Osalter, vous êtes d'accord? Ça sert à rien de nationaliser?
Oui, là, on se croirait un peu en 1980, quand même, avec les idées. Non, mais c'est vrai, avec les idées qui surgissent maintenant, c'est les années Mitterrand, entre les nationalisations, qui d'ailleurs n'avaient pas fonctionné à l'époque, hein. Il y avait une nationalisation, dans les années 80 de Sassilor, Usinor, qui maintenant sont des composants d'ArcelorMittal. Ça n'a pas empêché la sidérurgie et la métallurgie française de connaître une descente aux enfers et les bassins industriels de l'Est et du Nord de souffrir énormément. Mais entre ça, l'emprunt forcé des riches, comme l'avait fait Pierre Mauroy, l'impôt sur la fortune, l'abaissement de l'âge à la retraite, bon, on est quand même, on vit une espèce de faille spatio-temporelle qui en fait montre bien qu'on n'a pas résolu les problèmes de l'époque avec ces solutions, on ne les résoudra pas plus les problèmes actuels avec des solutions qui, a fortiori, sont datées.
Le mot de la fin, René.
Un mot, sans aucun doute, on peut contester d'un point de vue économique, financier, même politique, l'hypothèse de la nationalisation. Reste que si jamais elle revient sur la table, outre l'émotion légitime évoquée par Myriam Mankawa quant à la menace qui pèse sur ces centaines d'emplois, c'est aussi parce que l'Europe, justement, s'avère encore incapable
de
lutter contre la concurrence déloyale de la Chine.
Une grande naïveté. Hein.
Notamment la différence du prix de l'énergie qui est considérable avec la Chine et ce qui fait que l'acier européen est beaucoup plus cher. Et rappelons que Emmanuel Macron a promis des clauses de sauvegarde qui permettraient justement de sauver la sidérurgie, mais pour l'instant, on ne voit rien venir.
Merci beaucoup les informés. Merci Louis Osalter, journaliste politique au Figaro. Vous nous rappelez le titre de votre livre et vous nous donnez la une du Figaro.
La foudre et les cendres pour mon livre et la une du Figaro, je ne l'ai plus en mémoire, Agathe. Vous m'avez posé un piège. Donc nous n'avions pas préparé ça à l'avance. C'est sur le narcotrafic qui gangrène toute la France désormais, avec des notes du renseignement qui viennent documenter cela.
Parfait. Merci Myriam Mankawa, présentatrice de l'émission Tout est politique, 18h à 20h, les vendredis, samedis, dimanches sur France Info. TV. Merci Fanny Guinochet, éditorialiste économie à France Info. Merci beaucoup Renaud Dely. La une du Figaro, comment le narcotrafic gangrène toute la France. Voilà, et vous retrouvez les informés ce soir à 20h avec Victor Matelet.
On dit souvent que les belles rencontres se font lorsqu'on s'y attend le moins, qu'il faut laisser le temps faire son œuvre. Et soudain, votre regard s'arrête sur une Lexus. Ne passez pas à côté d'elle. Pendant les rencontres d'exception, venez essayer le Lexus LBX, notre SUV compact hybride à partir de 289 euros par mois, entretien inclus. Lexus LBX, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 4 990 euros. Offre particulier pour toute commande jusqu'au 31 décembre dans le réseau participant. Détails sur Lexus.fr. Pensez à covoiturer.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
On prend tous un billet pour le sud avec Christine Peña aujourd'hui.
Exactement, parce que le soleil c'est pour le sud et l'est également vers les Alpes, alors qu'au nord on n'y a pas droit du tout. On a une mer de nuages qui donne quelques pluies qui restent faibles, mais tout de même elles circulent, ces pluies. Il y en a de nouvelles pluies qui arrivent par la Bretagne, on a un défilé là de perturbations qui arrivera dans le sud et à l'est à partir des jours prochains. Aujourd'hui on reste dans le froid sur le nord-est avec du soleil, mais seulement 4 degrés à Nancy, à Dijon, 5 à Strasbourg, sous les nuages on aura 8 à Paris, 14 à Rennes sous les nuages et la pluie. Et puis dans le vent, mais sous le soleil, à Toulon, vous aurez 16 degrés cet après-midi.
Merci beaucoup Christine, merci d'écouter France Info. Je vous laisse avec Hercine Lebovitch jusqu'à midi. Bonjour Hercine.
Bonjour Agathe, bonjour à tous. Nationaliser ArcelorMittal pour éviter un plan social.